Samedi 25 avril dernier, Patrick Bouchain de l'agence Construire et Jean-Rémy Durand-Gasselin, adjoint au maire de Beaumont en Ardèche, étaient invités par la Friche Belle de Mai pour présenter le projet Les Bogues du Blat, une commande de la commune de Beaumont initiée dans le cadre de l'action Nouveau Commanditaire et du programme Habitat, Développement Social et Territoire de la Fondation de France. Les Bogues du Blat, construire, habiter, vivre ensemble autrement, de l'utopie à la réalité, témoignage de Patrick Bouchain et Jean-Rémy Durand-Gasselin.
J'ai découvert, mais tardivement, parce que je ne suis pas architecte, je suis coiffeur. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis mis à disposition de certaines amies qui avaient besoin de coiffure. Voilà. Donc je suis pas architecte et c'est pour ça que j'ai donc une capacité à m'occuper d'architecture parce que je n'ai pas de prétention architecturale. Et donc j'ai découvert très tôt que la permanence était une chose qui appartient à la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est un temps court, parce que voilà, la vie passe vite, mais en même temps, c'est un temps long qui s'installe. Comme la bureaucratie est dans un temps long, les procédures sont dans des temps longs, il faut donc introduire un temps long dans la transformation de la ville, parce qu'il faut introduire le temps long et immédiatement la vivre, cette architecture. Il ne faut pas la projeter dans un temps futur. Il faut considérer que l'architecture, c'est l'art le plus usité. C'est l'art le plus populaire qui soit et que donc on peut, dès le premier jour, tous être architectes. On est tous architectes, voilà, on peut le dire plutôt comme ça. Et donc du coup, il faut très tôt se mettre dans une disposition de faire les choses et pendant qu'on fait les choses, d'observer celui qui fait et éventuellement revendiquer de faire avec lui les choses ou de prendre sa place pour faire la chose. Mais il ne faut pas donc créer des préalables qui permettraient qu'il faut d'abord se mettre d'accord dans le discours, dans la parole et peut-être ensuite agir. Je pense qu'il faut agir et c'est l'acte qui transforme la pensée. Ce n'est pas obligatoirement la pensée qui transforme l'acte. Alors pour faire la liaison quand même avec Jean-Rémy, parce que Jean-Rémy n'est pas coiffeur, mais Jean-Rémy est polytechnicien. Et Jean-Rémy, à mon âge, et en 68, quand on faisait polytechnique, on n'avait pas envie de descendre dans la mine et de faire son métier. Donc, en fin de compte, Jean-Rémy a fait, on pourrait dire, l'école, l'excellence de l'école française pour devenir, en gros, un militant. Voilà, donc pour être quelqu'un qui reprend une fonction simple en ayant, en effet, un savoir complexe, si vous voulez. Et quand on s'est rencontré avec Jean-Rémy, c'est un peu, d'ailleurs, pour démonter tout ce qui s'est dit tout à l'heure, c'est que c'est quoi un logement social ? Un logement social, c'est un logement pour quelqu'un qui a envie d'habiter et qui n'a pas les moyens de payer peut-être un loyer élevé. C'est ça, en fin de compte, c'est un logement. Parce que quand on met le mot « social », immédiatement, c'est connoté avec difficulté. Quand on met un logement économe, on met un logement médiocre, en fin de compte. Mais un logement, comme le droit au logement, c'est une chose fondamentale, comme le droit au travail. Et donc, il faut faire un logement qui va permettre à quelqu'un, peut-être, d'y travailler, d'y habiter et éventuellement de le transmettre. Voilà, donc c'est ça un logement social. Donc c'est un logement qui est chargé du social. Donc s'il est chargé du social, il est chargé d'écologie. On ne va pas faire un logement écologique, on va faire un logement social. Il est écologique s'il est social. Et donc quand on a fait ce travail ensemble, on a voulu faire dans une petite commune de 200 habitants un logement social. Et on s'est rendu compte que toutes les procédures n'étaient pas faites pour faire un logement social dans une commune de 200 habitants. C'est fait justement pour faire du logement à la périphérie des villes. Et c'est pour ça qu'il est connoté comme étant le logement de la banlieue, le logement de la pauvreté, le logement de la délinquance, et ainsi de suite. Et donc, du coup, c'est assez drôle parce qu'on a mis presque 2 ans pour faire. Vous vous rendez compte que nous, on a fait 3 maisons en 5 ans. Donc, il faut déjà... C'est un acte quand même courageux et militant. Mais c'est un vrai travail intellectuel qu'on a fait avec la commune parce que la commune de Beaumont, c'est une association démocratique. Elle est élue. Et elle décide de construire un logement sur son territoire et elle n'a pas les moyens de le faire au sens financier du terme. Mais elle a les moyens intellectuels de le faire. Elle a les moyens politiques de le faire. Et donc on a décidé ensemble, peut-on construire un logement social dans une campagne, comme un paysan avant construisait un logement pour donc y tenir une activité. Mais ce qui est intéressant, c'est comme eux, parce que eux, comme on les appelle les 68ards, mais c'est méchant de dire, parce que moi j'en suis un aussi. Et donc, c'est qui, à un moment donné, a décidé de quitter la ville pour aller habiter la campagne, en Ardèche. Les paysans donnaient leur maison à l'époque, parce que les villages étaient vides. Aujourd'hui, les villages donc, sont occupés par des Hollandais, Belges et des Français pharmaciens, on pourrait dire. Et aujourd'hui, si quelqu'un de modeste voulait occuper la campagne parce qu'il n'a pas les moyens d'habiter la ville ou parce qu'il désire, pour des raisons écologiques, habiter à la campagne, il ne peut pas y aller. Et donc, c'est cette question-là qu'ils se sont posées. Peut-on aujourd'hui considérer la campagne comme étant capable d'accueillir une population pauvre, mais dans une pauvreté généreuse, et peut-elle cette population habiter la campagne parce qu'elle veut peut-être se mettre déjà en disposition de suffisance alimentaire, peut-être, et en autosuffisance alimentaire. Non, mais parce que c'est un rêve, au même titre que nous, on en a eu à une époque, d'élever des chèvres et des moutons et de faire du fromage de chèvre. Et donc, du coup, on s'est posé cette question, et on va faire un livre sur ça, parce que c'est un travail absolument incroyable qui a été fait à Beaumont. La première règle, c'est qu'aucun organisme social n'a voulu construire un logement social dans une commune de Beaumont, parce qu'il n'y en avait que trois. Et qu'aucun organisme social ne voulait construire un logement social dénormé par rapport à la norme du logement social, parce qu'il fallait construire un logement rural et éventuellement écologique. On ne va pas utiliser ce mot parce que, moi, il me gonfle. Donc, on va faire un logement rural. Et donc, on s'est posé ces questions lentement, mais ce qui est formidable, c'est que ces questions ont été posées à l'intérieur du conseil municipal. C'est-à-dire que c'est dans une assemblée élue, dans une commune, que ces questions se sont posées. Et à l'autre bout, ça a pu se faire dans le cadre d'une opération des nouveaux commanditaires de la Fondation de France. Parce que la Fondation de France s'est posée à un moment donné la question, qui est capable de passer commande d'une œuvre d'art ? Est-ce que c'est seulement le ministère de la Culture, les directions régionales des affaires culturelles, et éventuellement les institutions qui peuvent passer commande ? Ou est-ce qu'une petite association peut-elle passer commande ? Est-ce qu'elle peut être maître d'ouvrage ? Et François Hers, qui a inventé cette procédure, a considéré qu'il fallait un médiateur. Et donc ce médiateur que François Hers a inventé, c'est une personne qui est extérieure à la commune de Beaumont, qui elle voulait passer commande, et extérieure à nous, qui étions donc en gros artistes. Mais on n'était pas vraiment artistes, parce que ce qui est assez drôle, pour ceux qui connaissent un peu le monde de l'art, c'est que la médiatrice donc, de la Fondation de France avait pensé que cette commande irait à un artiste qui s'appelle Vito Acconci. Et Vito, lui, il habite New York, pose un problème pour faire trois logements en Ardèche quand même. Donc Vito, au bout d'un certain temps, il a dit, moi, bon, voilà, je ne vais pas le faire et tout, on pourrait le donner à un architecte. Donc on m'a appelé pour ça, le coiffeur, pour en fin de compte être l'assistant de Vito. Voilà. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, Vito ne peut pas le faire, moi je vais le faire. Et nous, on s'est dit, on ne peut pas le faire tout seul, on va le faire vraiment ensemble. Et on va donc y adjoindre autour de nous une association qui nous a aidé à trouver les habitants. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a travaillé donc sur un collectif d'habitants, et le collectif d'habitants n'est pas celui qui habite. C'est-à-dire que le collectif d'habitants est un collectif d'habitants qui était sensible à l'idée d'habiter la campagne et qui nous a aidé à faire le programme de l'habitat, mais qui n'a pas été pour autant les habitants. Vous voyez, c'est cette générosité-là qu'on doit retrouver. C'est qui est capable peut-être de parler au nom de quelqu'un sans être pour autant le bénéficiaire consommateur de ce bien ou de cette chose, de cette jouissance que l'on pourrait avoir. Et donc c'est assez étonnant parce qu'on a eu des moments de dépression, on pourrait dire, où on avait ce collectif d'habitants exigeants et autres, et dont on le voyait s'effondrer. Et en même temps, il a lentement structuré ce collectif d'habitants, le comportement des architectes, le comportement de la maîtrise d'ouvrage, le comportement des institutions qui voyaient bien qu'il y avait un intérêt à construire un logement social. Et après, il y a eu défection de tous. Et un jour, la commune, vous vous rendez compte, il faut 2 ans pour se poser cette question. Elle dit, et si nous empruntions nous-mêmes l'argent pour être nous-mêmes bailleurs sociaux ? Vous voyez, c'est assez étonnant. Quoi. Et c'est comme on est tellement modélisé qu'il a fallu un temps fou. Et vous savez pourquoi ? C'est parce qu'à un moment donné, quand même, la commune s'est dit, mais nous, on a transformé un jour un logement, en fin de compte, ou une construction dans un logement pas cher, parce qu'on y a fait des travaux presque nous-mêmes, et qu'on y a logé quelqu'un, en fin de compte, qui paye un loyer qui est l'équivalent d'un loyer du logement social. Vous voyez, je pense qu'il faut qu'on reconsidère tout le temps, les schémas dans lesquels on se trouve. Donc maintenant, je vais donner la parole à Jean-Rémy. Et Jean-Rémy a posé sur la table un objet assez incongru, parce que c'est la maquette du logement social construit à Beaumont. Donc, il est en terre cuite, et comme vous le savez, peut-être que voilà, moins il y a de façades, moins un logement coûte cher, mais plus un logement a un grand toit, plus il peut, sous son toit, faire évoluer la construction. Donc l'idée était de dire, je fais un grand toit et donc j'ai peu de façades, je n'ai qu'une seule façade, comme beaucoup de maisons paysannes, avec une seule vue, et ça me permettra, ce logement, d'habiter d'abord le rez-de-chaussée et de faire souche en empilant sur soi-même l'évolution de son logement, et non pas d'avoir un T1, un T2, un T3, et quand j'ai un T1, je suis célibataire, un T2, j'ai baisé, un T3, j'ai fait un enfant. C'est pas possible. Un T4, j'ai deux enfants, un T5, je dois prendre ma retraite, je redescends dans un T1. Ben, c'est impossible, quoi. Je veux dire, c'est une vie de fou. Et donc, on s'est dit, on va regarder dans le T5 dès le début. Voilà.
La volonté, l'acte, et puis la médiation, et surtout la temporalité. Hein, je rappelle, 2005... et 2012, hein, les premiers jugements. 2005, c'est l'expression d'une volonté. Peut-être, Jean-Rémy Durand, vous pouvez parler de cette expression de la volonté, de comment ce projet voilà, est né à Beaumont.
Ouais, quand même, un tout petit peu avant, vous saluer. Un polytechnicien, il faut tomber les mythes. Il y a chaque année 20% des polytechniciens qui font autre chose que de se reproduire dans la structure du capital et de la culture dominante. 20%. J'en suis marseillais moi-même. Je suis né ici en 47, au moment où le peuple de Marseille voulait inventer le monde et mener des grèves insurrectionnelles vigoureuses. Je suis parti de Marseille en 1962, au moment où la ville de Marseille a accueilli en un mois 1 million de réfugiés d'Afrique du Nord qui débarquaient sur le port. J'ai le souvenir d'une ville généreuse. Voilà, et je suis content d'y revenir, à la Friche. Cette question du processus et du temps. D'abord, il y a derrière moi les photos qui passent à mesure. Je vous les commenterai un moment, si vous le souhaitez. Sur la question du temps, oui, j'ai entendu très fort les mots processus, une démarche longue et étape par étape bien identifiée. Ça, une étape de faire ensemble plutôt que de parler ensemble. Et le jeu de parole avant, c'est de se partager les rôles, qui va faire quoi, plutôt que de se mettre d'accord sur des idéologies. Ça, j'ai envie de vous le dire parce qu'en milieu rural, c'est très prégnant. Par exemple, on n'a jamais voulu appeler notre projet un éco-hameau. Dès qu'on appelle ça un éco-hameau, on est envahi et encombré par 1000 autres expérimentations qui sont absolument respectables, mais qui apportent tout de suite plein d'arrière-plans qui ne sont pas dits. Des logements sociaux, ça ne peut pas être un éco-hameau au sens où Pierre Rabhi à la Blachère fabrique un éco-hameau, dans une liberté d'adhésion et de foncier, et de futurs habitants, et de financement et de temps. À partir du moment où on parle d'un projet de logements sociaux, on a un système de contraintes qu'on va dénormer tant qu'on peut, mais n'empêche qu'il est bien là. Voilà. Donc on a une tendance, à nous, en milieu rural, à rester très pragmatique pour que l'idéologie ne nous bouffe pas. Et en même temps, je vous sais gré d'oser de la langue, parce que c'est dialectique. Si on veut bouger la culture dominante, il faut bien fabriquer de la langue.
Mais plutôt, il ne faut pas se laisser se faire polluer par elle.
Voilà. On est, nous, dans un milieu rural, dans une fragilité de micro-monde. Hein. Vous savez, habiter un village, ce n'est pas facile. Et ça demande du respect de la langue et autour d'un faire ensemble, d'abord. Je crois que c'est une des recettes qu'on a su bien faire dans notre commune, faire ensemble, y compris avec vous.
On peut rentrer dans le détail du programme, peut-être. Donc, ces trois habitations, je crois qu'au départ, il y avait un projet de 8 habitations. On peut parler un peu de...
Alors, dans les dérangements, 8 habitations sur une ancienne châtaignerie que la commune avait pu acheter en 2001. Donc, vous voyez, l'histoire a commencé en 2001, déjà. Et au départ, on voulait faire de l'habitat groupé. Sur l'idée qu'on a, contrairement à l'image du rural où il y a des habitats individuels dispersés dans la campagne avec des petits oiseaux, des petites fleurs, on a aussi des hameaux. Et notre commune est faite de 7 hameaux où il y a de l'habitat groupé. Et pour des raisons de vision de la châtaignerie, on pensait plutôt regrouper les maisons de façon assez maligne, de façon à avoir dessiné l'espace commun entre les maisons, mais en même temps respectant l'espace de la châtaignerie. Voilà. Et là, on s'est fait bousculer par construire. qui nous a fait une proposition tout de suite de maison individuelle, mais avec l'idée que chacune des maisons ne démolissait pas l'espace. Quand vous êtes dans des zones de pente, si vous voulez construire, vous décaissez la montagne pour faire les fondations. Et vous faites vous abîmez la montagne pour un petit moment, même si vous la rebosez, si vous la replantez. L'hypothèse d'architecture proposée par construire, c'est des sauterelles posées dans le pré. Hein, je dirais. Ça nous a fait rire au départ, on nous dit « elles vont s'envoler tes maisons, on n'y croit pas ». Quoi. C'était ça qui nous a amené au départ.
Il y a dans ces maisons aussi une part... disons, d'autofinition laissée aux habitants, c'est-à-dire aussi ce projet que les futurs habitants peuvent augmenter d'une certaine manière eux-mêmes la maison aussi pour qu'elle leur soit singulière, pour qu'elle corresponde plus à eux-mêmes. C'est important, ça, dans le projet, de ne pas, bien sûr, livrer une maison terminée.
Non, c'est parce qu'en effet, il y a eu tout à l'heure, dans la parole qui est passée avant, il y a cette idée, qu'un habitat doit être adapté à la personne qui l'habite, et qu'éventuellement, il n'y a pas d'architecture sans trace. C'est-à-dire qu'une architecture qui ne serait pas enrichie de la personne qui l'a habité avant est une architecture qui n'a pas de réalité culturelle. C'est-à-dire que voilà, c'est le grand problème du logement social, c'est sa standardisation et éventuellement sa remise dans l'état d'origine quand on redonne le logement au suivant. Donc c'est une période de l'histoire de l'architecture qui n'était jamais arrivée jusqu'à maintenant. D'habiter tous le même, d'habiter tous chez le même bailleur et éventuellement d'habiter des modèles par taille de vie familiale et éventuellement de la remise dans l'état d'origine. Donc là, c'est de dire, est-ce que je peux transformer un logement pour mon usage ? Donc c'est celui qui rentre, peut-il être accompagné et nous accompagner ou accompagner le maître d'ouvrage pour le finir ? C'est pas un prêt à finir comme certains promoteurs l'ont fait pour vendre moins cher un logement et mettre quelqu'un dans une situation de faiblesse sur le plan économique, mais c'est de dire... à partir d'un moment de la construction, tu peux venir avec le charpentier ou les constructeurs pour le finir, voire éventuellement faire des choses à laquelle on n'avait pas pensé. Et ensuite, tu peux le livrer, plutôt le céder quand tu le quitteras avec ces transformations, et la personne qui viendra après pourra le transformer en prenant une partie de ce que vous aviez donc adapté pour vous-même. Donc c'est une sorte d'adaptation ou d'un logement qui sans cesse peut s'adapter au mode de vie, y compris pour soi-même. Vous l'avez vu vous-même, vous avez changé le lit de place, alors que vous pensiez bien dormir comme ça, une simple relation amoureuse différente ou un état d'âme particulier fait qu'un changement de place du lit fait que la chambre paraît d'un seul coup plus habitable, alors qu'avant elle l'était déjà. Et on ne sait pas pourquoi, il fallait ce changement. Et donc on doit pouvoir faire la même chose pour le logement. Alors du coup, on avait dit, on va faire un prêt à finir, mais en même temps, on va faire une sorte de logement qui va permettre de prendre souche. C'est-à-dire de dire, si j'ai un étage du dessus qui est donc comme un grenier inoccupé, peut-il être occupable par moi-même pour être une salle de jeu dans la rusticité d'un comble, ce qui n'existe pas dans les logements sociaux, et éventuellement, puis-je le transformer un peu plus parce que je viens d'avoir un enfant, ou parce que je veux plus coucher avec mon compagnon, et voilà, pendant un certain temps, je boude, je vais dans le grenier, ou éventuellement, la commune recevant une demande de quelqu'un, mettons une personne âgée ou une femme seule qui d'un seul coup réclame un logement, peut-on négocier que d'une maison qui allait être une maison unique, on peut faire une maison à deux, c'est-à-dire qu'on peut habiter sur l'autre. Voilà. Et donc c'est ce qui est arrivé, c'est quand il y avait une institutrice à la retraite qui voulait habiter avec un skipper, qui lui n'était pas souvent là et donc on a travaillé beaucoup avec eux, ça ne s'est pas fait, et après c'est un autre couple qui est venu, et cet autre couple a eu l'idée en effet de partager cette maison avec quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Vous voyez, il faut recommencer à re-raconter des histoires d'habitation. Donc cette maison est comme, ces maisons sont comme ça.
Tout à l'heure, quand je parlais de mobilité dans le projet, c'était cela aussi. Le projet, c'est réinventer au fur et à mesure. Il n'y a pas une ligne droite.
Non.
Ça, c'est important.
Oui. Non, mais parce que c'est comme ça la vie. C'est comme le matin, on ne sait pas ce qu'on va faire, ou tout au moins, quand on sait ce qu'on va faire, 80% des choses qui se font dans la journée, ce sont des imprévus. C'est-à-dire que tout est un imprévu. Et donc, dans le logement, ça peut être pareil. Alors, ce qui est assez particulier dans cette commune, c'est que, parce que Jean-Rémy l'a dit là, donc c'était de prendre d'abord un terrain que l'on a. C'est mieux de prendre quelque chose que l'on a, faire avec ce qu'on a. Ils avaient acheté une châtaigneraie, nous on la trouvait très belle. Eux, ils n'ont plus l'habitude de voir la beauté, peut-être, de leur paysage. Et donc, quand on a rappelé que nous, on n'allait pas... C'était tellement beau qu'on avait presque même envie de ne pas faire le projet à cet endroit. Et donc, lentement, on s'est dit, bon, on va le faire. Et c'est eux... Non, mais c'est ça qui est formidable. Quand on parle de participation, c'est eux qui ont fait la préparation du terrain. C'est-à-dire que c'est eux, en tant qu'agriculteurs ou en tant qu'habitants, qui ont fait la préparation du terrain. Et donc, on a commencé à montrer que si on allait nettoyer cette châtaigneraie, il y avait pourtant des gens qui ramassaient des châtaignes, mais que voilà, on allait le faire lentement et tout. Et c'est ce temps long. Et après, ils ont préparé le terrain et on a récupéré les bois. Après, on devait faire la maison commune, tu te rappelles, ensemble, puis on ne l'a pas faite et tout. Mais on l'a projeté, cette maison commune, puis après, on ne l'a pas faite.
Jean-Rémy Durand, on a le sentiment, je n'ai plus le nombre d'habitants exact à Beaumont, mais on a le sentiment que c'est tout le village qui s'est retrouvé engagé dans ce projet, que tout le monde y a contribué. Comment ça a changé le village? Est-ce que c'est vraiment l'ensemble du village, ou est-ce que finalement c'était quelques-uns, au fond, quelques-uns bien engagés, importants, mais quelques-uns?
Il n'y a pas de... d'angélisme, c'est pas tout le monde. Une commune de 220 habitants a ses marges, a ses oppositions. Il y a eu un temps un groupe d'habitants qui s'est fâché parce que on allait construire des logements sociaux et que ça allait faire des mauvais voisins, avec une pétition. Enfin, il n'y a pas d'angélisme là. Ce qu'il y a de vrai, c'est que dans cette commune là, petite commune Sévenol, comme vous en avez au pied de l'Aigoile, c'est une géographie qui ressemble beaucoup à l'Aigoile. Il y a une belle alchimie depuis les années 75 entre des gens qui sont arrivés pour y vivre dans les années 75, des jeunes du pays qui se sont battus parce qu'ils voulaient y rester, et des vieux qui ont appris et qui se sont apprivoisés tous ces éléments de modernité. Et du coup, c'est une commune qui est active aussi parce qu'il y a une dizaine d'agriculteurs actifs. Je vois les autres communes à côté souffrent énormément de la déprise agricole et de la déperdition des actifs. Nous sommes dans une commune où il y a beaucoup de résidences secondaires. On a 150 résidences secondaires pour 100 habitants permanents, pour 100 maisons permanentes, pardon. Mais la dominante est quand même la vie de l'hiver. On est là en hiver. Et lorsque la mairie propose un banquet communal, on est facilement 50, 60, 70 habitants de l'hiver. Et en hiver, il y a 120 personnes dans la commune. Donc, c'est-à-dire que lorsque la mairie a proposé, après avoir rencontré Construire en octobre 2008, 6 mois plus tard, on a fait une réunion publique avec Construire pour présenter le projet. Jean Lautrey nous avait fait une magnifique maquette, grande comme 3 fois 7 tables, du terrain. Salut Jean. La maquette du terrain, et on posait ces éléments en céramique sur le terrain pour commencer à choisir où est-ce qu'on allait goupiller les maisons. Et on avait fait cette présentation du projet dans la maison des chasseurs, qui était chaude et ouverte, et il y avait 60 personnes. Mais je crois que c'est le rythme de notre commune en milieu rural. Vous savez, le milieu rural réserve des surprises magnifiques de temps en temps. On a, dans des communes de 200-300 habitants, un groupe de jazz qui vient, qui ramasse plus de monde qu'à Lyon, à la Croix-Rousse. C'est un art de vivre ensemble aussi.
C'est pourquoi c'est très intéressant ce qui se passe, ce qui s'est fait à Beaumont, c'est que c'est peut-être c'est dans ces petites unités-là que le laboratoire ou que la chose est visible. Vous voyez, des fois, il faut aller dans le micro pour comprendre éventuellement le macro. Et en comprenant le micro, parce que là, il y a tout le micro, hein, tout ce que Jean-Rémy vient de décrire, c'est formidable. Il y a l'école, il y a le double emploi, il y a, en fin de compte, la décroissance, parce que c'est de 1800 au nombre actuel, c'est une décroissance. Et on pourrait dire que c'est un laboratoire, éventuellement, pour des zones industrielles dans lesquelles on n'a pas traité les choses de cette façon. Et c'est pour ça que les 36 000 communes françaises, C'est une particularité française et révolutionnaire d'ailleurs. C'est une petite unité démocratique qui permet justement ce rééquilibrage-là. Ce n'est pas la peine de passer par des voies associatives et autres. C'est l'association républicaine. Et donc du coup, on pourrait dire que regarder Beaumont, c'est comprendre éventuellement comment peut-être à Condange, voilà, où il va y avoir des endroits entiers où il va y avoir une décroissance. Vous vous rendez compte, moi j'ai fait une réunion la semaine dernière à Montpellier. On ne sait pas si la gare TGV de Montpellier servira à quelque chose. Parce que comme il faut anticiper, on acquiert 350 hectares, on va construire une gare, on la donne en partenariat public-privé, donc à Vinci, qui dit, moi si je ne la commence pas cette gare, je demande des pénalités. Alors on la commence, mais peut-être que le train ne passera jamais là, parce que peut-être que la liaison avec Barcelone et Nîmes ne se fera pas. Et on aura peut-être donc une gare construite. Il va falloir qu'on se réadapte éventuellement à utiliser au même titre qu'on a utilisé des châtaigneraies qui ne sont plus des châtaigneraies, ou éventuellement parce que le verre à soie et ainsi de suite, peut-être qu'on aura des gares qui seront construites et qui ne seront jamais des gares. Et donc je pense que là, c'est pour ça que nous, on y a donné beaucoup de temps, et quand Jean-Rémy décrit Jean Lautrey, c'est parce que j'avais décidé de faire cette opération. Moi, j'aime pas la Fondation de France. Voilà, comme ça. C'est comme ça. Quand la fille de la Fondation de France est venue, je dis, moi, je travaille pas pour la Fondation de France. Et elle me dit, ah bon, pourquoi? Je dis, parce que voilà, moi, je veux pas travailler comme ça dans le hors commun. Et j'avais interdit d'ailleurs qu'elle s'assoie dans mon bureau. J'ai dit, on fera le rendez-vous debout, parce que ça, avec la Fondation de France, ça va durer longtemps. Et elle le rappelle tout le temps. Elle dit quand même, comment tu m'as reçu et tout. Et après, on est tombé dans la marmite. C'est en les rencontrant. On a compris que du coup, il n'y avait plus rien. C'était eux qui étaient donc très intéressants. Et donc, nous, on a travaillé. Et moi, j'avais décidé de faire un atelier de réflexion. Donc, Jean Lautrey est mon meilleur ami. Et Jean Lautrey, un peu comme Jean-Rémy, voilà, en 68, il n'a pas voulu être vétérinaire. Et il a décidé d'être père à la maison, parce qu'il vivait avec une fille qui était agricultrice. Voilà. Et donc, Jean, c'est mon meilleur ami. Et donc, quand je commence un projet, je vais le raconter à Jean. Il habite dans un tout petit village au-dessus de Manosque et tout, et je lui raconte les choses, et c'est parce que je vois son regard tellement éloigné de tout que je comprends la question que je me pose à moi-même. Et donc, comme il est en même temps céramiste, horloger, agriculteur, père de famille et tout, je lui dis, on va faire une maquette, comme on n'en a jamais fait, on va faire une maquette en céramique. Et donc, si vous la regardez, elle est très compliquée, parce qu'il a fait il l'a cuit dans son four, mais il a fait des petites maisons en terre, et quand on est arrivé là-bas, c'est vrai que c'était assez particulier. On n'est pas arrivé avec une maquette en papier, en carton et tout, on arrive avec des maquettes en terre. Voilà. Et donc, je pense que, vous voyez, c'est de tout le temps retourner une situation. Et après, on a travaillé avec des jeunes architectes, après on a travaillé avec des paysagistes, après on a travaillé voilà, avec des stagiaires qui avaient à l'agence, avec Sophie Ricard qui habitait chez toi, et ainsi de suite. Et donc, on a commencé, pour ceux là tout à l'heure qui disaient, on a habité chez eux, et on a habité Beaumont. Voilà.
Je crois qu'il y avait une question.
Oui, un grand merci d'avoir partagé avec nous ce bonheur de faire qui sort de vos paroles et qu'on peut bien sentir dans ce que vous avez réalisé, qui est fantastique. Je me pose juste des questions sur et ceux qui habitent, comment est-ce qu'ils le vivent? Et ceux qui habitent, est-ce qu'ils sont heureux? Et une question en plus, est-ce que ceux qui habitent font collectif? Est-ce qu'ils font ensemble? Est-ce qu'ils sont ensemble ou...
Il y a plein de pièges dans la question. Il n'y a pas de commande à faire du collectif. Les gens, ils font du collectif s'ils veulent. C'est pas facile, ça. C'est pas parce que les promoteurs ont dit que les habitants, ils allaient faire du collectif. Et c'est le gros défi d'une démarche longue et, je crois, profondément culturelle et qui n'est jamais gagnée d'avance. Par exemple, cette histoire du groupe d'habitants qu'on a pu construire, mettre en place parce que construire, insister en disant on veut construire pour des gens. Voilà. Donc on va faire une liste d'attente à la mairie, on a envie de rencontrer des futurs habitants. On a aussi à ce moment-là pris contact et fait la patch avec Local à louer, qui est l'équivalent chez vous de Regain, qui est une association de trois jeunes archis qui savaient bien animer des groupes de travail de futurs habitants. Et ce groupe de futurs habitants a vraiment travaillé pendant 9 mois, mais pour de vrai. On va y habiter, on discute avec les archis, l'aménagement de la façade, les cloisons intérieures, le terrain, les chiens qui vont faire du bruit, où est-ce qu'on met les bagnoles, où est-ce qu'on mettra les vélos, où est-ce qu'on fera un jardin collectif, où est-ce qu'on mettra une réserve d'eau de pluie collective pour arroser le jardin. Ils ont fait un vrai travail de charte. Et La question, c'était, c'est pas une charte de vivre ensemble, c'est une charte d'habiter ensemble. Et ça a été un des pièges du groupe. Le groupe a voulu basculer dans une démarche communautaire, de projet communautaire. Ça n'est pas un projet communautaire, c'est un projet d'habiter et pas de vivre. Et ça a été, du coup, un des éléments de fragilité dans le groupe. Et le deuxième élément de fragilité, ça a été le temps. Les uns et les autres s'étaient inscrits dans le projet en espérant avoir leur logement parce qu'ils en avaient besoin. Et en fait, l'échéance du chantier qui a été repoussée pour des raisons administratives, parce qu'on a mis un an et demi à avoir l'autorisation de l'État, bon, ça c'est toute la partie bagarre politique sur la construction de logements sociaux en milieu rural qui est une vraie lutte. Ce groupe d'habitants a fondu. Il n'empêche qu'il a laissé derrière lui des petites traces. Les petites traces, c'est que les suivants qui sont venus connaissaient par le bouche à oreille ceux qui avaient participé au premier groupe et que, du coup, il y a tout un réinvestissement du projet de charte qui s'était fabriqué, qui s'est fait tout seul. On n'a pas eu besoin de faire du forcing là-dessus. Les quatre habitants actuels s'en sont inscrits très facilement et naturellement dans tout le travail qui avait été fait avant, et on a gardé des relations amicales, pas toujours faciles, mais amicales, avec ceux qui étaient dans le premier groupe. Donc, pour dire que... Et alors, maintenant, les quatre familles qui y habitent aujourd'hui, elles se sont montées une association. Voilà, je me sens plus libre d'en parler aujourd'hui, parce qu'il y a 15 jours, ils ont invité les gens de la commune à un repas de quartier, et on était 50. Et c'est eux qui ont pris l'initiative d'inviter. Et sur les 50, il y avait une vingtaine d'habitants du hameau lui-même, qui sont des voisins d'ailleurs un peu improbables, qui ne se voient pas forcément ni volontiers, mais qui se sont retrouvés ce jour-là. Donc cette partie-là est gagnée, mais elle est dans cette fragilité aussi. Aujourd'hui, ils s'entendent bien, ils ont fait une association, je ne sais pas comment ils feront dans 3 ans. Au jour d'aujourd'hui, ça fonctionne, voilà.
On a aussi tenté, parce que j'avais rencontré quelqu'un à Toulouse, qui travaillait donc sur un texte de loi auquel j'ai participé, mais qui est devenu une usine à gaz quand la loi donc a été présentée à l'Assemblée et la loi donc est applicable, qui est ce qu'on appelle les sociétés civiles immobilières en accession progressive à la propriété. Donc l'idée était que est-ce que habiter, c'est un concept marxiste, est-ce que habiter est une façon d'enrichir son propriétaire? Voilà, donc une habitation qui n'est pas habitée est une habitation qui n'a pas de valeur. Et une habitation habitée, elle a donc une valeur parce qu'elle a atteint son objectif d'être habitée. Et est-ce que celui qui l'habite, donc on pourrait dire l'habitant, il entretient le patrimoine donc, de la personne qui l'a construit et en payant son loyer, il permet à l'organisme de rembourser l'emprunt qu'il a pris donc, pour construire ce logement. Et donc on s'était dit, on pourrait faire que, on pourrait retrouver un épargne populaire, donc ce qu'on a appelé un pécule, qui aurait permis que quelqu'un qui habite, par le paiement de son loyer, peut mettre de côté, ou par les travaux qu'il fait chez lui, il enrichit donc, le patrimoine donc, de l'office ou de la commune, et donc on peut dire que ça peut lui être restitué, ou éventuellement, ça peut être comme une sorte de provision qui lui permettrait, au cas où il rencontrerait dans sa vie des difficultés, mettons, il n'était pas au chômage, il peut payer, il est au chômage, il ne peut plus payer, est-ce qu'il ne pourrait pas payer dans ce pécule qui serait l'équivalent de livret A de la caisse d'épargne qu'il aurait déposé, qui lui-même aurait servi à l'office d'HLM de l'emprunter, et ainsi de suite. Donc de revenir à la caisse d'épargne. Donc on s'était lancé dans ça. Je pense qu'il faudra qu'on y revienne, parce qu'il y a une dimension là intéressante qui n'est pas de privatiser le logement social, mais qui est d'associer l'habitant dans ce mouvement social qui est de construire un logement, en effet, comme vous l'avez dit, agréable à habiter. Donc c'est une vision collective de l'habitat à laquelle il devrait y avoir une association ou une participation qui donnerait donc à celui qui habite une part sociale. En fin de compte, c'est un peu ce qu'on a inventé, nous, à la friche de la Belle de Mai, par cette société coopérative d'intérêt collectif où on a des parts sociales, quand même, d'un objet qui appartient à d'autres, mais y compris à nous. Et donc, là, je pense que Jean-Rémy me le souffle à l'oreille. Moi, un jour, comme je ne supporte pas la haute qualité environnementale, ce qu'on appelle la HQE, et donc, un jour, j'ai fait exprès, j'ai remplacé le E par H. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais vous êtes trompé, c'est un E. Et je lui dis, pourquoi, c'est quoi le E pour vous? Il me dit, c'est environnemental. Je dis, moi, H, c'est humain. Donc maintenant, à chaque fois que je rédige un règlement, je mets haute qualité humaine. C'est-à-dire que la haute qualité environnementale, elle est la conséquence ou la déduction d'une haute qualité humaine. Il n'y a pas la haute qualité environnementale qui définit une haute qualité humaine. Et donc c'est assez drôle. On a donc très souvent dit comme ça HQH, HQH. Je trouve ça plus beau quoi, qu'il y ait HQH que HQL.
Merci beaucoup à vous deux d'être venus ici à Marseille communiquer cette expérience.
On les invite à Beaumont. On vous invite à Beaumont.
C'était un extrait de la rencontre du 25 avril dernier à la Friche, Construire ensemble un habitat sociétal participatif, où étaient invités Patrick Bouchain de l'agence Construire et Jean-Rémy Durand-Gasselin, adjoint au maire de Beaumont en Ardèche. Ils sont venus parler du projet Les Bogues du Blat, une commande de la commune de Beaumont initiée dans le cadre de l'action Nouveau Commanditaire et du programme Habitat, Développement Social et Territoire de la Fondation de France. Ce programme diffusé sur les ondes de Radio Grenouille s'inscrit dans une série de programmes tout au long de la journée en écho à ce Made in Friche autour du projet d'habitat participatif à la Friche Belle de Mai. Restez connectés sur le 88.8.